Bonjour, on republie notre actualité sur la démission ou non du ministre des Affaires étrangères iranien, au cas où vous l'ayez raté.
Alors, je sais pas comment on a fait pour éviter le sujet iranien pendant 4 épisodes, mais today is the day. Alors, bon, je vais évacuer une question tout de suite. On va pas parler de Nasrin Sotadeh, l'avocate iranienne militante des droits humains qui a été condamnée. En plus des 5 ans qu'elle fait actuellement à 10 ans de prison supplémentaire et 148 coups de fouet pour, je cite, incitation à la débauche. Non pas que ce sujet ne soit pas intéressant à traiter, et l'occasion se présentera sûrement de parler des peines de prison pour les militants des droits de l'homme à travers le monde, mais ce mois-ci, nous avons décidé de porter notre regard sur un autre événement, la démission du ministre des Affaires étrangères iranien.
Alors, est-ce que tu peux faire un petit rappel des faits? Parce qu'on a beaucoup parlé de sa démission, mais moins du fait que la démission n'ait pas été acceptée par le président iranien.
Ouais, aucun problème. Alors, le lundi 25 février, il y a donc presque un mois, Mohammad Javad Zarif, le ministre des Affaires étrangères iranien, a annoncé sa démission. Il a écrit, je cite, « Je présente mes excuses de ne plus être capable de continuer à mon poste et pour tous mes manquements dans l'exercice de mes fonctions. » Fin de citation. Bon, c'était en farsi, donc ça a été traduit, évidemment. Apparemment, le bureau d'Hassan Rouhani ne s'attendait pas à cette démission. Et le lendemain, donc le mardi 26, une majorité des parlementaires iraniens a signé une lettre demandant son maintien en fonction. Alors, on pourrait se demander pourquoi la démission d'un ministre, certes des Affaires étrangères, mais un ministre iranien a fait un tel bruit dans la presse. Ben, c'est parce que Mohammad Javad Zarif, que j'appellerai à partir de maintenant Zarif parce que son nom est très long, c'est le héros iranien pour ceux qui veulent s'ouvrir à l'Occident. C'est lui qui a négocié la signature du JCPOA avec les Américains et les Européens en 2015. On l'a appelé, selon l'expression de Reza Nasri, l'architecte du JCPOA. Je cite encore une fois, sa personnalité, son expérience, sa vision, sa capacité presque instinctive à résoudre des problèmes et sa popularité en Irak ont joué un rôle crucial dans la désescalade des tensions avec les États-Unis et l'Europe. Alors, ce qui explique que toute une partie des parlementaires souhaitant s'ouvrir à l'Occident ou souhaitant tout simplement la paix et la stabilité régionale est signée pour son maintien au gouvernement. Il est également très populaire auprès de la jeunesse iranienne qui souhaite en partie une ouverture plus grande sur le monde. Il sait par ailleurs comment leur parler parce que c'est sur Instagram qu'il a annoncé sa démission et sa maîtrise des réseaux sociaux n'est pas à démontrer.
Mais il doit collectionner les détracteurs avec son côté pacifique.
Oui, bah tu crois pas si bien dire parce que depuis la sortie des États-Unis du JCPOA en mai 2018, selon la volonté de Donald Trump, Téhéran est convaincu que les États-Unis veulent provoquer un changement de régime en Iran. Or, Zarif, c'est un diplomate qui a été éduqué aux États-Unis et qui soutient une position d'ouverture et de dialogue avec le pays, ce qui n'en fait pas un ami des nationalistes iraniens anti-américains. Il a été qualifié de punching ball des conservateurs iraniens qui ont essayé plusieurs fois de le destituer, mais sans succès. C'était le cas en décembre dernier, à cause de la prise de position de Zarif sur le blanchiment d'argent. Mais les détracteurs qui ont proposé sa destitution n'ont pas été assez nombreux pour que ça puisse être effectif.
C'est quand même incroyable qu'il y ait eu un changement de relation aussi fort entre les États-Unis et l'Iran qu'on en arrive à des situations comme ça.
Oui, parce que entre les États-Unis et l'Iran, ça n'a pas toujours été des relations aussi froides. Ils ont même été alliés pendant près d'un siècle. Sans revenir sur toute l'histoire de l'Iran, et d'ailleurs je vous propose un super article que vous pourrez trouver en description du podcast, mais aujourd'hui l'Iran fonde sa politique étrangère dans une volonté d'indépendance et de refus de toute ingérence, notamment de ceux qu'elle considère comme néocolonialistes, c'est-à-dire les États-Unis, la Russie et le Royaume-Uni. Ça peut sembler un peu paradoxal, mais le rejet du JCPOA par les Américains a donné une chance à l'Europe de se démarquer de la politique iranienne des États-Unis et de conserver une relation de confiance avec l'Iran. Chaque partie respecte sa part du traité. La confiance dans les discussions sur le nucléaire est fondamentale. Et comme le disait Lassine Azerbo vendredi au Paris Talk, le multilatéralisme est plus fort que le bilatéralisme. Ça paraît être confirmé par les deux exemples nucléaires des actualités. Le JCPOA tient malgré le désengagement des États-Unis alors que la Corée du Nord pense à reprendre ses activités nucléaires après un sommet de Hanoï décevant.
Oui, c'est vrai qu'on aurait pu traiter le sujet de la Corée du Nord ce mois-ci, mais nous l'avions déjà fait à l'épisode 3, nous le ferons peut-être de nouveau dans quelques mois et prendrons le temps de revenir sur ce fameux sommet. En attendant, pourquoi est-ce que Zarif a donné cette démission ?
Alors, bon, c'est toujours un peu plus compliqué que la version officielle, mais ce serait en partie lié au fait d'avoir été tenu à l'écart d'une visite de Bachar al-Assad à Téhéran, lors de laquelle le Syrien remerciait l'Iran pour l'aide financière qui lui a permis de survivre à 7 ans de guerre dans son pays. L'Iran et la Syrie sont des alliés régionaux de longue date. La Syrie avait soutenu l'Iran dans sa guerre avec l'Irak de 1980 à 1988, et aujourd'hui l'Iran soutient le gouvernement syrien dans l'espoir d'échapper à l'implantation de Daesh sur son propre territoire. Mais revenons à notre sujet. Le ministre n'aurait pas donc été convié à la réunion Bachar avec Khamenei, le guide suprême, et le président Rouhani, alors que le général, et j'ai peur de mal dire son nom, Qassem Soleimani, qui est patron des opérations extérieures des gardiens de la Révolution, donc la principale force armée iranienne, ainsi que le principal diplomate de la République islamique, très conservateur, Ali Akbar Velavati. Le général et ce diplomate étaient présents, au contraire du ministre des Affaires étrangères. Alors, c'est clairement un problème au niveau protocolaire de ne pas avoir invité le ministre des Affaires étrangères lors d'une visite de cette importance. Mais selon certains observateurs, ce ne serait que le reflet d'une perte de contrôle du gouvernement et en particulier de Zarif sur la politique étrangère depuis la réélection de Rouhani en 2017 et encore plus depuis la sortie des États-Unis du JCPOA.
Et donc, dans tout ça, la démission a été refusée par Hassan Rouhani.
Oui, un peu moins de 2 jours plus tard, donc le 27 février, Rouhani a écrit une lettre ouverte à Zarif qui a été publiée sur le site du gouvernement, dans laquelle le président a écrit, entre autres, « Je pense que votre démission va à l'encontre de l'intérêt du pays et je ne l'approuve pas. » Alors, la raison de l'exclusion du ministre de ces entrevues aurait été, je cite encore une fois, un manque de coordination au niveau du cabinet du président. Donc en fait, une erreur. Alors bon, pour rien vous cacher, je suis pas vraiment convaincue par cet argument de l'erreur à cause d'un manque de coordination, ça me semble un petit peu léger. Je pense que ça montre bien plus un déplacement de l'équilibre des pouvoirs en Iran qui se détache de l'influence américaine dont Zarif est en quelque sorte le représentant à l'intérieur de son pays.
Oui, et après, il faut bien garder en tête que si la raison publique de la démission de Zarif est cette rencontre avec Bachar al-Assad, il y a plus que certainement d'autres raisons qui n'ont pas été dévoilées dans les journaux.
Oui, évidemment, et d'ailleurs c'est pour ça que je vous parle de l'Iran aujourd'hui, et que tu nous as parlé tout à l'heure de l'Inde et de Pakistan. Ce sont des conflits qui sont des conflits ou bien juste des situations qui sont extrêmement complexes, qu'on peut traiter, nous, dans ce format-là, que de manière partielle. Mais au fur et à mesure, justement, des épisodes, on arrivera à créer une espèce de carte, j'espère, une espèce de cartographie de ce qui se passe réellement là-bas. Ce qui se passe aujourd'hui en Iran, c'est ultra intéressant. Par contre, on manque aujourd'hui un peu de recul historique. Alors, je voulais conclure là-dessus parce que je trouve ça un peu fou. Et je suis désolée si c'est une grosse digression, mais le ministre des Affaires étrangères iranien a annoncé sa démission sur Instagram. Alors, bon, je sais pas si vous avez vu sa publication, mais c'est écrit sur un dessin religieux avec quelques lignes sur la fête des mères, qui est le 25 février en Iran. Alors, c'est assez curieux quand même. Alors, moi, la référence à la religion, mais de dire ça sur le même poste que la fête des mères, déjà. Et en plus d'utiliser un réseau social pour annoncer sa démission, en plus, un réseau social qui sert principalement à partager des photos et des vidéos. En comparaison, le président a répondu devant les caméras de chaînes de télévision et ensuite il a fait sa lettre ouverte sur le site, sur le site du gouvernement. Donc après l'annonce du refus de sa démission, Zarif a remercié le peuple iranien, les élites et les responsables, encore une fois depuis son compte Instagram. Alors, l'utilisation des réseaux sociaux pour des hommes et des femmes politiques n'a rien de nouveau. Ils sont présents depuis un petit moment, ils communiquent et ça date pas des tweets de Trump. Les États-Unis ont d'ailleurs massivement investi les réseaux sociaux, et ce depuis vraiment longtemps, plus d'une dizaine d'années, en développant leur digital soft power. La France aussi, à son rythme, à sa manière. Mais qu'il y a une question qui se pose assez souvent, c'est est-ce que les réseaux sociaux, plus qu'Internet en soi, provoquent une transformation de la diplomatie vers une diplomatie hashtagable, une twiplomatie, comme le dirait Hylène Manor. Mais honnêtement, et j'ai pas de réponse à vous apporter, mais j'ai du mal à comprendre comment une annonce de cette importance a pu être faite sur Instagram. Si vous avez des idées, chers auditeurs, si vous avez ou une réponse, je la lirai avec attention.
Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.